Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Tsigeshi Ferrao. Cette semaine, Escale s'intéresse à la responsabilité de protéger, aussi connue sous l'abréviation R2P. Cette initiative, née en 2005, vient de fêter ses 10 ans. C'est à la suite des tragédies survenues au Rwanda et dans les Balkans au cours des années 90 que la communauté internationale a commencé à débattre de la manière de réagir avec efficacité lorsque les droits des citoyens sont violés de manière flagrante et systématique. C'est en décembre 2001 que l'expression « responsabilité de protéger » a été énoncée pour la première fois. Puis en 2005, lors du 60e anniversaire des Nations Unies, cette responsabilité de protéger a été définie lors d'un sommet mondial. Mais qu'est-ce que la responsabilité de protéger ? Pour répondre à cette question, écoutons Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide.
La responsabilité de protéger, R2P en abrégé, incarne un engagement politique par les États membres pour remplir leurs obligations juridiques préexistantes de protéger les populations des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et du nettoyage ethnique. Quand je dis obligations juridiques préexistantes, je parle des traités internationaux tels que la Convention pour la répression et pour la prévention et la répression du crime de génocide. Je parle également des pactes internationaux sur les droits de l'homme, des conventions de Genève sur le droit humanitaire, etc. Donc là, ce sont des obligations juridiques. Par contre, la responsabilité de protéger, une fois encore, c'est un habillage, si je puis dire, politique. C'est un engagement politique qui a été pris par les leaders de ce monde il y a de cela 10 ans, comme vous l'avez rappelé, c'était en septembre 2005, pour que plus jamais l'on puisse assister à des crimes de génocide. À la vérité, ce sont les échecs, les multiples échecs qui ont été enregistrés dans les années 90 et plus précisément.
Alors justement, d'où naît ce principe de R2P ?
Le principe de R2P tire ses racines dans les engagements répétés de la communauté internationale à ne plus jamais faire face à des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, à ne plus jamais rester les bras croisés lorsqu'il y a des menaces de génocide, des menaces de crimes contre l'humanité qui pèsent sur des populations à travers le monde. Et c'est plus précisément tirant les leçons de leurs échecs, des échecs multiples, et notamment les douloureuses leçons du génocide des Tutsis au Rwanda, du génocide de Srebrenica. Et là, ils se sont dit, nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons plus admettre que des États, au nom de leur souveraineté, commettent en silence des crimes aussi graves. Ce qu'ils ont appelé, en somme, ce que nous appelons dans notre cadre d'analyse, les atrocités criminelles, c'est-à-dire génocide, crimes contre l'humanité, nettoyage ethnique et crimes de guerre.
Le concept de responsabilité de protéger repose sur 3 piliers essentiels. Premièrement, il incombe aux États de protéger leur population. Deuxièmement, il incombe à la communauté internationale d'encourager et d'aider les États à s'acquitter de cette responsabilité. Et enfin, si un État faillit à son devoir, la communauté internationale doit être prête à mener une action. Les détails avec Adama Dieng.
En 2009, le secrétaire général a énoncé un cadre pour la mise en œuvre de la responsabilité de protéger. Et ce cadre repose sur 3 piliers et il n'y a pas en fait de hiérarchie entre ces piliers. Et ce sont des piliers qui se renforcent mutuellement. Ils sont à leur tour basés sur l'engagement pris par les États membres lors du sommet de 2005, le sommet mondial de 2005. Le premier pilier, rappelle tout simplement la responsabilité première des États de protéger leur population. Et cette responsabilité, bien entendu, peut impliquer un large éventail de mesures dans plusieurs secteurs, que ce soit le secteur de la primauté du droit, que ce soit les droits de l'homme, la gouvernance inclusive et légitime, parce que comme vous le savez, très souvent, ces crimes, lorsqu'ils sont commis, ne sont pas seulement le fait de violations graves, mais il y a toujours à la base des phénomènes tels que l'exclusion. L'exclusion dans la gouvernance. Et c'est pourquoi le premier pilier est extrêmement important. Maintenant, le deuxième pilier souligne la responsabilité collective de la communauté internationale. Certains États pourraient vouloir assurer leur responsabilité, mais ne pas avoir les moyens de remplir cette responsabilité. Et là, il appartient donc à la communauté internationale de leur venir en appui, en leur apportant, par exemple, des moyens pour renforcer leur capacité, par exemple, capacité d'analyse, parce qu'il faut arriver à anticiper, à prévenir et à apporter une réponse effective à ces besoins. À titre d'illustration, je puis donner le cas du Mali, où le gouvernement malien a eu à faire appel à la communauté internationale pour lutter contre les forces de Ansar Dine. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que la France a développé l'opération Serval pour venir donner donc une assistance au Mali. Nous pourrions également donner d'autres exemples tels que le Kenya où en 2013, le secrétaire général, moi-même, nous avons pris des actions pour aider les autorités kényanes à aller vers des élections paisibles, inclusives, et nous avons vu les résultats. Donc c'est tout simplement pour dire que la responsabilité de protéger est avant tout la prévention.
Adama Dieng, la crise en Libye est un échec flagrant du RDP. Mais selon lui, c'est surtout avec la crise actuelle en Syrie, qui est entrée dans sa cinquième année, que la responsabilité de protéger a failli à sa tâche. Pour le conseiller spécial, il ne fait aucun doute que le problème majeur a été notamment le manque de cohésion du Conseil de sécurité, qui n'a pas su parler d'une seule voix. Adama Dieng.
Lorsqu'on parle des échecs, l'échec le plus désolant, c'est l'échec de la communauté internationale en Syrie. Aujourd'hui, la Syrie est la plus grande crise humanitaire du monde. Ce flux de mouvements de population que nous voyons vers l'Europe, par exemple, est le résultat de cet échec. Et je serais même tenté de dire que les malheurs que nous sommes en train de voir, la tragédie qui se déroule sous nos yeux en Irak, avec ces fous, ces fanatiques de Daesh, également, c'est le résultat de cet échec. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la communauté internationale n'a pas su parler d'une voix. Et quand je dis communauté internationale, je pourrais être même plus précis et dire que c'est le Conseil de sécurité qui a failli. Et aujourd'hui, nous sommes face à un conflit d'une tragédie colossale pour le peuple syrien. Et c'est véritablement, je dirais, un symbole honteux de la division internationale. Et je le crains, le jugement de l'histoire sera sévère. Mais il n'est pas trop tard. Il est important que tout soit mis en œuvre pour que soit résolue la crise syrienne. Les conséquences pour ces échecs sont très répandues et dur, hélas, la crise mondiale des réfugiés aujourd'hui est un produit de l'incapacité de la communauté internationale à trouver une réponse commune, à mettre en œuvre des réponses collectives aux crises et en stade précoce.
Rapport, le secrétaire. rapporteur général a suggéré que lorsque le Conseil de sécurité décide de l'usage de la force dans un pays donné, un mandat clair et précis doit être formulé afin d'éviter un scénario similaire à celui qui a eu lieu en Libye. Adama Dieng revient sur les causes de l'échec de la RDP dans le pays. On l'écoute.
Lorsque le Conseil de sécurité conclut que des moyens militaires sont nécessaires, il faudra en même temps que le Conseil donne un mandat qui soit très clair dans ses objectifs et que également qu'il soit très clair sur la durée prévue de cette intervention, mais aussi pour les procédures à mettre en œuvre pour, disons, l'évaluation des progrès. Ce qui est regrettable dans le cas de la Libye, c'est qu'il y a eu cette intervention qui peut-être a pu éviter à un moment donné des atrocités criminelles, mais il n'y a pas eu de suivi. Il y a eu tout de suite, je dirais, pratiquement un départ, laissant finalement un pays où finalement vous avez des tribus ici et là, toutes les contradictions. Et le pays est tombé dans un chaos total.
Le mandat était donc mal défini, trop large?
À mon avis, malheureusement, ce mandat n'était pas suffisamment clair et au moins une leçon que nous devrions en tirer, c'est que une intervention militaire collective doit également être étalonnée et proportionnée, doit avoir aussi des règles d'engagement qui sont à la fois compatibles avec l'objectif de protection, qui est en fait l'objectif primordial, mais aussi il faut que ce mandat soit entièrement compatible avec le droit international. La Libye nous a de toute façon enseigné qu'il est important qu'on évalue très rapidement l'appui nécessaire à apporter dans un pays où le recours à la force a été autorisé pour justement qu'il y ait une consolidation de la paix post-crise et que la communauté internationale soit prête à maintenir le cap sur le long terme. Parce que c'est facile de venir, d'intervenir et de partir. Et c'est ça que je reproche justement à la communauté internationale dans le contexte libyen. Mais ceci ne devrait pas être une raison pour ne pas intervenir ailleurs, notamment en Syrie. Qu'est-ce qu'on a finalement relevé? Plus aujourd'hui, on peut parler pratiquement, au moins en tout cas officiellement, 220 000 morts, mais d'autres diront qu'il y a au moins 250 000 morts, sans parler du million de blessés, sans parler de la dizaine de millions de personnes déplacées et réfugiées, et sans parler aujourd'hui des victimes que nous enregistrons quotidiennement, qui cherchent justement à fuir le terrain pour éviter la mort, mais qui finalement meurent aussi. Et c'est là aussi l'occasion de rappeler à la communauté internationale son devoir de solidarité, et notamment à l'Europe son devoir de solidarité. On ne peut pas fermer aujourd'hui les portes de l'Europe. Et j'étais heureux que le Premier ministre du Luxembourg, lors de notre rencontre à Bled il y a de cela 10 jours, ait été très clair en disant, lorsque nous sommes entre nous, parlant donc des leaders européens, nous tenons pratiquement le même discours. Mais dès que nous retournons chez nous, certains en tout cas tiennent un autre discours, un discours pour plaire à leur électorat. Et cela doit cesser. Parce que nous sommes aujourd'hui face à des risques de crimes contre l'humanité. Donc c'est l'être humain qui est concerné.
Et c'est avec Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention de génocide, que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine au 10e anniversaire du concept de responsabilité de protéger. Un magazine présenté par Tsigeshi Ferrao avec la collaboration de Christina Silvero et Florence Westegard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.